Florence et Maurice Benatia sont éleveurs de brebis viande à Ivignac-la-Tour, dans les Côtes d'Armor. Dans cet épisode, ils livrent leur expérience sur cet élevage peu connu, mais néanmoins très dynamique en Bretagne. Ils donnent également des conseils aux jeunes souhaitant s'installer dans cette production. Bonjour à tous les deux. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter votre exploitation, donc la SAU, l'historique, le nombre de bêtes, etc.
Ouais. Écoute, nous on s'est installé. D'abord, bienvenue et bonjour, bienvenue. Ravi de pouvoir parler de la production ovine. Donc nous on s'est installé en 2012 en fait. On a repris la suite de l'exploitation des parents Florence, qui était déjà en ovin en fait. Donc ici, on avait une SAU de 60 hectares. Il y avait 700 brebis. Et je peux aller directement en 2016 en fait, pour aller assez vite. En 2016, on a eu l'opportunité de reprendre 45 hectares, ce qui fait qu'on est monté à 105 hectares de SAU, et on a stabilisé notre cheptel aux alentours de 650 brebis. On a baissé un petit peu parce qu'on manquait de place et on trouvait par rapport à l'autonomie qu'on visait, c'était plus cohérent dans notre démarche. Ouais. On peut parler un peu des races de brebis qu'on a, si tu veux, Flo.
Ouais. Donc en fait ici nous sommes sur un système de croisement F1 entre la Romaneuf et l'Île-de-France. La Romaneuf était arrivée en Bretagne donc dans l'idée de faire donc de l'agneau toute l'année et en fait de produire d'avoir une grosse prolif. Mais l'inconvénient de cette race quand même est que il n'y a pas beaucoup de conformation. Donc pour l'agneau viande, c'était pas tellement intéressant. Donc le croiser en fait avec de l'Île-de-France qui ramène la carcasse commence à améliorer du coup les agneaux, ça commence à apporter un peu d'intérêt sur l'agneau pour l'agneau viande. Et du coup au final ces F1 là, nous on les recroise avec des béliers en fait de race bouchère.
Et en termes de culture, qu'est-ce que vous faites sur l'exploitation?
Eh ben ici on fait donc sur les 5 hectares il y a 20 hectares à peu près de maïs entre maïs en silage, maïs grain parce qu'on donne du maïs en silage à nos brebis. Il y a une vingtaine d'hectares de blé, une dizaine d'orge entre l'orge et le critical et le reste c'est pâturage et fauche. Ouais, donc pâturage il y a une dizaine d'hectares et le reste c'est de la luzerne, beaucoup de trèfle violet, c'est mieux à faire beaucoup de trèfle violet et des raigrins. En fait, on vise l'autonomie alimentaire le plus possible.
Alors, on est surtout là pour parler du défi de faire du mouton en Bretagne. Dans le contexte actuel, on sait que d'ici quelques années, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont partir en retraite. Sur le terrain, le ratio qu'on entend le plus, c'est 3 départs pour une installation. C'est d'autant plus vrai en ovin. Donc du coup, comment attirer les jeunes et comment réussir son installation ?
Ben en fait, je vais pas contredire complètement ce que tu dis, mais j'ai apporté un petit éclaircissement, on va dire. Je m'occupe de tous les éleveurs Bretagne au sein de notre coopérative Terrena. Par rapport aux installations d'élevage ovin, la Bretagne, parce que Terrena, c'est quand même la coopérative de tout l'ouest de la France, quasiment, en ovin. Et la région Bretagne fait figure d'exception quasiment au sein de la coopérative, parce qu'on a une filière, on a un dynamisme d'installation qu'on ne connaît pas dans les autres régions. Après, ça va pas suffire à compenser les départs en retraite, mais on a une telle image, je pense, liée au pâturage auprès des animaux ou à la façon de produire des agneaux qu'on a des jeunes pas mal à s'installer. On a plein de projets encore à venir.
Et un engouement de certains laitiers qui aussi arrêtent leur activité
Blasé
et qui, du coup, se dirigent un peu plus vers le petit ruminant. Voilà. En se disant qu'au final, des fois, faire leurs 10-15 dernières années en petit ruminant est plus simple pour eux, ils n'ont plus la strainte de la traite. Et du coup, c'est vrai que certains s'installent comme ça aussi. Il y a quelques dossiers en Bretagne.
Et donc, comment bien réussir son installation ?
Eh ben, faut pas se planter. Parce que ça reste quand même une filière hyper technique, quoi.
Ouais. Mais à la base aussi, c'est attention, comment ne pas se planter, c'est ne pas mettre trop cher dans une ferme.
Voilà.
Faut pas engager trop d'argent quand même au départ parce que on est quand même pas une production à grosse marge quand même.
Voilà.
Et là, faut faire attention à ça parce que nous on a des jeunes là qu'on a eu chez nous en stage et tout des gens qui sont passés par des BPREA et qui veulent s'installer en mouton et c'est vrai que ça a été un des premières choses qu'on leur a dit c'est attention des fermes à 600 ou 900 000 euros à vendre dans le secteur on peut pas un éleveur ovin pourrait pas pouvoir rembourser ça où ce serait vraiment, où il faudrait vraiment pour produire à outrance et ce serait trop de travail pour une personne. Parce que bien souvent, c'est des projets tout seuls et c'est pas possible.
En fait, il faut essayer d'avoir un système où le pâturage est comme autour de l'exploitation, pouvoir le sortir le plus possible les brebis.
Voilà.
Et avoir comme aussi des surfaces pour tendre un peu sur l'autonomie, quoi. Parce que le fait de tout acheter, on s'en rend compte au jour d'aujourd'hui, par exemple, au coût des matières premières, c'est pas viable, quoi.
Et ça serait quoi l'investissement idéal pour quelqu'un qui veut s'installer ?
Moi, souvent, c'est un chiffre qu'on entend, mais entre 200 et 300 000 euros maximum pour une installation.
300 000 euros, ouais. Ah ouais, pour deux. Moi, j'aurais dit 500 000 pour deux. Moi, donc, ouais, c'est ça, à peu près. Donc, 250 et 300 000
pour une personne. Voilà. Non, parce que, souvent.
Et avec 250, 300 brebis, quoi.
Ouais.
Tu disais tout à l'heure, Maurice, que c'est une production très technique. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le terrain, il n'y a pas beaucoup de techniciens ni de formations. Alors, comment peuvent faire les jeunes pour acquérir des connaissances dans cette production ?
Donc oui, les étudiants, c'est vrai qu'on reçoit des fois des étudiants qui sont intéressés par la filière ovine, mais qui ne connaissent rien, qui n'ont rien comme très peu en fait dans leur cursus scolaire en Bretagne. Donc ils sont souvent obligés de s'expatrier hors Bretagne, et c'est dommage parce qu'on est une filière dynamique. Il manquerait dans les lycées agricoles des représentants ou des professeurs qui soient vraiment intéressés par la production ovine et l'apprentissage de la production ovine auprès des étudiants.
Même par un CSO ovin, en fait. Il en existe hors Bretagne. Donc, on sait que certains jeunes passent... Parce que c'est quand même intéressant pendant un an d'avoir intégré une formation qui soit entièrement dédiée aux moutons.
Ah oui, c'est technique, que ce soit sur l'alimentation, la reproduction, la mise à la reproduction, la préparation, sur la contention, tout ça, c'est bien de le voir D'abord, à l'école, derrière une table et une chaise, avec des schémas et des fiches, quoi, parce que c'est important.
Donc, même si certains lycées, quand même, en Bretagne, enfin, c'est tout, certains lycées, ils font les Ovinpiades, en fait.
On organise, tous les ans. Les Ovinpiades. Ouais, je suis président des Ovinpiades, avec les Ovinpiades des jeunes bergers, où on a une sélection régionale, et la finale se joue tous les ans au Salon de l'Agriculture à Paris.
Ouais. Okay. Donc c'est des présentations de bêtes comme...
Non, il y a plusieurs épreuves théoriques et pratiques, en fait. Ouais. Donc sur la manipulation, le tri, avec le bâton de lecture électronique, la lecture de boucle, le parage, la morphologie de la brebis, la génétique. Épreuves théoriques aussi, avec la reconnaissance des races. Il y a plusieurs choses. C'est assez technique. Mais bon, le fait de manque de représentativité dans les lycées agricoles fait qu'on est allé à 5 maximum, je crois que c'est 4 lycées agricoles qui participent tous les ans. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus, parce que ça porte quand même... c'est une pièce complémentaire à un cursus de formation agricole, par exemple.
Et dans la continuité de l'installation, donc on l'a dit, c'est une production qui n'est pas très, très connue, où il n'y a pas beaucoup de références. Donc ma question, c'est, lors de son projet d'installation, comment avoir le soutien des banques ?
C'est pas facile.
Il y a des banques qui prennent des risques, on va pas dire des risques, mais c'est comme si une filière qui est un peu méconnue, ils ont pas forcément le recul sur les chiffres et la trésorerie et les retombées économiques. Certaines banques
sont en dents de scie en plus, sur des productions comme les nôtres, puisque on n'est pas comme les éleveurs laitiers avec une paye de lait tous les mois, ou des éleveurs de porcs qui vendent plus facilement en bande.
Une production cyclique.
C'est vrai que pour la globalité des élevages, ils ont en général 2-3 périodes d'annulage dans l'année, puis ils vont vendre. Donc ce qui fait que du coup, c'est vrai que pour les banques, ils ont du mal du coup après à se replacer.
Mais ils suivent quand même les projets. Il y a pas de raison qu'ils ne suivent pas. De toute façon, vu la conjoncture, ils vont les suivre de plus en plus. Et on vient d'avoir accès d'ailleurs au prêt d'honneur de la région Bretagne, ce qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Ça donne quand même une bouffée d'oxygène aux jeunes qui veulent s'installer. Donc c'est un prêt à taux zéro. Je crois que ça peut monter jusqu'à 50 000 euros. Okay. Ouais. Donc c'est déjà un plus et ça prouve la crédibilité du projet, en fait, quoi. Ouais. Et après, les chambres sont là. Les
PCAEA sont quand même aussi par rapport à l'élevage ovin, puisque justement, il y a un engouement. Donc les PCAEA sont...
On est assez prioritaire là-dessus aussi pour l'élevage ovin, quoi.
Ouais, quand tu t'installes. Mais c'est vrai qu'il faut penser à tout quand tu t'installes. Oui, faut vraiment avoir un budget clair et précis pour demander justement toutes ces aides-là quand tu t'installes, quoi. Ouais.
Et en parlant d'aide, on a aussi, faut pas que j'oublie quand même parce que c'est important, la coopérative qui peut faire un appui auprès des banques, ce qui donne aussi un gage de soutien. Et en plus, on a réussi depuis quelques années à obtenir des grilles tarifaires avec des prix établis à l'année.
Voilà.
Des prix fixes. Donc ça, c'est vachement important. Et depuis qu'on a ça, on se rend compte que les banques sont quand même plus attentives et sont moins rechignantes à suivre les projets.
La question suivante, elle est peut-être plus pour toi, Florence. C'est quand on achète un troupeau, sur quel point faut-il être vigilant d'un point de vue sanitaire?
Ben en fait, ouais, à la création d'un troupeau, il y a, je pense, une chose qu'il faut vraiment pas, c'est l'origine en fait. C'est de pas mélanger plusieurs origines. Je pense que déjà, c'est le béaba, quoi. Après, oui, quand on peut pas faire autrement. Donc, en effet, on parlait des banques tout à l'heure. Vraiment, sinon, prévoir avec les banques qu'après, ton augmentation de cheptel se fasse dans le temps. Négocier avec la banque, en effet, parce que bon, admettons, t'as mélangé deux origines au début, bon. Mais après, de laisser le temps que les agnelles naissent chez toi. Ça peut être aussi la solution après pour après éviter de ramener tous les ans des origines et tous les ans risquer de ramener quelque chose dans une exploitation. Parce que voilà, moi c'est après je le dis pour nous, j'en parle de notre, enfin pour nous, mais au final nous de faire nos agnelles, eh ben c'est d'éviter tout souci sanitaire, voilà, parce que tu rentres déjà des béliers en général, rares sont les élevages qui ne rentrent pas des béliers en plus, donc tu multiplies encore les risques d'origine différentes dans l'exploitation. Donc quand tu peux déjà brider en faisant toi-même tes agnelles, ta suite, tu voilà, faut essayer de penser à ça à chaque fois, quoi. Faut aussi aller voir tes animaux sur place, parce que je pense qu'après faire venir, hop, on fait venir un camion. Et non, faut toujours aller quand même voir les animaux qu'on achète, parce que voilà, tu peux toujours quand même tomber sur des choses. Tous les éleveurs ne sont pas tous. Voilà. Donc, faut quand même aller voir sur place. Et une fois que tu t'es rendu compte, toi, bon ben, faut les rentrer tranquillement dans l'exploitation, mais faut faire attention à ça.
Et donc, ce serait quoi les éléments majeurs pour que la filière ovine fonctionne correctement?
Pouvoir avoir de l'agneau toute l'année, donc des moyens techniques, des moyens techniques, des personnes qui peuvent aider les éleveurs, parce que les éleveurs qui sont tout le temps la tête dans le guidon, des fois faudrait pouvoir prendre un peu de recul.
Bien suivre les jeunes qui s'installent, ouais, exactement. Parce que c'est bien gentil d'installer des jeunes, mais le tout est d'être derrière, pouvoir quand même les suivre les premières années pour leur donner les bons conseils et puis. Ouais.
Après, je pense que commercialement maintenant, on a réussi à fédérer une filière parce que la preuve en est que maintenant, on a même des opérateurs hors Bretagne qui viennent chercher des agneaux en Bretagne. Comme quoi, l'agneau de Bretagne fait des envieux ailleurs, quoi. Parce que on a réussi à relever un peu le défi de la production ovine. Je vois sur la coopérative, on a une augmentation de 18% par rapport à la dernière en production. Donc, c'est énorme.
On commence à parler de l'agneau breton.
Donc, c'est du modèle breton.
Et pour finir, si vous aviez quelque chose à dire à un jeune qui souhaite s'installer, qu'est-ce que ce serait?
La filière ovine, on y croit, il y a de l'avenir. Après, il faut être bon techniquement, on va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un jeune? On va pas dire fonce, mais... Si, fonce, mais réfléchis bien. Entoure-toi. Ouais. Faut pas hésiter à faire des stages, à aller comparer les systèmes, à se déplacer et à questionner. Faut pas hésiter. On est là.
Faut être curieux et quand tu trouves une ferme, quand t'as l'idée sur un endroit où tu vas faire, voilà, penser à quel système tu veux mettre en place. Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, je pense que si tu l'as réfléchi en amont, ça va aller tout seul après. Si tu t'es bien posé les questions avant de t'installer. Mais c'est pour ça. Donc, faut bien réfléchi. Faut pas se lancer paf dans le mouton en se disant sa vie d'amour et d'eau fraîche. Parce que, ou pas d'amour et d'eau fraîche, mais d'herbe et d'eau fraîche. Mais non, parce que c'est ça, en fait, voilà.
C'est une production assez chronophage, donc si tu y vas par contrainte, c'est pas la peine. Faut vraiment que ce soit un truc qui soit bien cohérent, bien réfléchi, où tu dises, même si j'ai du boulot, de toute façon, ça me plaît, et c'est comme ça que je voulais faire, et ben, c'est pas grave, on y va.
Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux.
De rien.
De rien, merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois !